Boulevard 102.1.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet automne.
Il y a quelqu'un sur la hotline, allô Boulevard?
OK.
Rage Against le matin, l'open mic, le pit stop, Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, le volume au max, le rock and chill, le boulevard du rock, le volume à planche. Boulevard 102.1, bon la semaine, la fin de semaine, qui t'informe sur ce qui se passe à Québec et ailleurs. Des gros dossiers comme les petites niaiseries.
Moi, je serai vous, je vous écouterai.
Sans oublier le meilleur de la musique rock, de tes années grunge et pop-punk à aujourd'hui.
Non, moi, je serai nous, je vous... Non. Maintenant, il faut nous écouter.
Bravo!
Oui! On est content de vous retrouver.
Pour vrai, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi.
Boulevard 102.1.
Propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Bonsoir, vous êtes bien sur les ondes de Boulevard 102.1, espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une belle soirée ce soir, puisqu'on passe la soirée en compagnie de Jérémy Guillot, qui est analyste politique et directeur chez TAC. Salut Jérémy!
Salut Yannick!
Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu pendant 60 minutes. D'habitude, j'ai eu la chance de te parler pendant 10 minutes, là, puis là, ben, t'as d'autres choses à faire parce que tu travailles extrêmement fort. Fait que là, de savoir que tu t'es libéré pendant quelques minutes ce soir, ça me fait grandement plaisir. C'est mon cadeau de Noël à moi que tu me fais.
Bien, ça fait plaisir d'être avec vous. C'est pas tout le monde qui aime ça de parler de politique pendant une heure. Hein? Ma blonde, d'habitude, après 3 minutes, elle me dit « c'est bon, ça va faire là, ta politique, là, garde-la pour quand tu travailles ». Fait que de parler de ça avec vous ce soir, ça me fait grand plaisir.
Mais ça, je pense que c'est le billet de proximité, au même titre que nos enfants. À chaque fois qu'on leur parle de quelque chose, « ouais, ouais, ouais », puis aussitôt que quelqu'un dit la même affaire que nous, ben « ah ouais, mais t'as-tu entendu, Patrick a dit telle affaire, c'était très pertinent ». Ouais, mais je t'ai dit la même affaire, là, 2 semaines, puis tu voyais que c'était pas pertinent parce que c'était moi qui te le disais. Ah, nos blondes, nos enfants, même combat. On vit la même affaire. Alors, on parle de politique, oui, ce soir, mais juste avant, j'aimerais ça parce qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas, qui n'écoutent pas Marceau le midi, qui écoutent juste le podcast de Marceau le soir. Jérémy Guillot, c'est un gars qui a grandi à quel endroit?
Écoute, j'ai grandi à La Prairie quand j'étais plus jeune, dans une famille bien bloquiste qui m'ont initié à la politique très jeune, très rapidement. Mes grands-parents, c'était des grands organisateurs locaux. Ils faisaient du porte-à-porte. Puis bon, éventuellement, j'ai été au Collège Notre-Dame. Je me suis fait absorber peut-être par l'univers montréalais. Et j'ai moi-même commencé à cogner à des portes, mais au grand désespoir de mes grands-parents, j'ai commencé à cogner à des portes avec l'équipe libérale qui m'a éventuellement amené à Ottawa à travailler avec des ministres comme Diane Leboutier quand elle était au Revenu national, avec Mélanie Joly quand elle était au développement économique, Dominique Anglade d'un point de vue provincial. Et puis ben, depuis quelques années maintenant, je suis directeur chez TAC, j'accompagne des gens dans des gestions de crise, comment bien prendre la parole en public. Fait que j'espère que ça va être bon ce soir.
Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si gros quand tu es rentré au gouvernement, quand tu accompagnais justement ces ministres-là? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit si gros ou c'est peut-être plus petit qu'on pense, je ne sais pas?
Ben, je pense que c'est pas aussi loin qu'on pense. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi accessible, qu'on soit qu'un petit gars qui a grandi à La Prairie sur la rive sud de Montréal, qui est passionné de politique, qui n'a pas une famille. J'ai toujours eu la perception que pour faire de la politique, ça prenait comme une grande tradition, une grande famille politique. Ouais. C'était excessivement difficile à accéder. Rapidement, tu te rends compte, mais faut que tu t'impliques, faut que tu te lances là-dedans, puis peut-être un jour le téléphone va sonner, puis c'est ça qui est arrivé. Nous, contre toute attente, les libéraux en 2015, ça allait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, ont gagné un gouvernement majoritaire, et là, maintenant, en ce temps-là, t'as besoin de monde, et les premières personnes qui sont appelées, mais c'est les gens qui ont fait campagne avec les députés, et c'est comme ça qu'à l'âge de 20 ans à l'époque, j'ai signé mon premier contrat professionnel pendant que je faisais mes études universitaires pour aller faire de la politique à Ottawa. J'ai déménagé, je suis parti de la région de Montréal, je suis allé vivre à Ottawa pour presque 5 ans et j'ai commencé mon travail comme ça. Petit pout encore à l'université, mais aussi au gouvernement du Canada.
Puis parmi les politiciens que tu as rencontrés, Jérémy, en pourcentage, là, quels sont les politiciens qui sont là vraiment pour les bonnes raisons versus ceux que tu disais, eux autres, c'est peut-être pas pour leur peuple qu'ils veulent travailler, là?
99%.
Oh, OK.
99% des politiciens puis des gens que j'ai côtoyés sont là pour les bonnes raisons. Et là, et j'ai des amis qui viennent de tous les partis politiques. Et j'applique ça à tout le monde. La grande majorité des gens sont là pour les bonnes raisons. Après ça, il y a des façons de faire la politique. Il y a des gens qui sont drivés par les valeurs. Il y a des gens qui sont un petit peu plus poussés par l'appareil, la passion politique. Puis il y a 1% des gens, malheureusement, qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Mais je pense que quand tu fais ce sacrifice-là, puis c'est un peu cliché, on le dit souvent, hein, quand on fait le sacrifice de la politique, surtout aujourd'hui, c'est très exigeant. On a l'impression que ces gens-là, des fois, on a vite à les critiquer, mais ces gens-là travaillent jour et nuit. C'est des standards que même toi et moi, là, on ne s'appliquerait pas aujourd'hui. Là. Ça travaille jour et nuit, ça travaille la fin de semaine. Je regardais ça il n'y a pas si longtemps que ça, quand le gouvernement fédéral a voté le fameux congé de taxe sur la barbe à papa. Mais peu importe ce qu'on peut penser de cette politique-là,
ouais.
Les élus étaient là, ils étaient 11h20, 11h30, là. Il était en train de voter, il n'avait pas fini. C'est des gens qui, pendant la semaine, font ça. Pendant la fin de semaine, ils font la tournée de leur circonscription. Puis à travers ça, quand il y a une crise, bien, on veut qu'ils soient là, peu importe où ils sont, même s'ils sont avec leur famille, même s'ils sont avec leurs vacances, on s'attend à ce qu'ils reviennent, qu'ils fassent face à la crise. Après ça, bon, bien, il y a des gens qui nous disent, c'est ce qu'on choisit, mais pas tout le temps. Tu sais, des fois, ça te tente d'être avec ta blonde et tes enfants la fin de semaine. Fait que ouais. C'est des gens qui se donnent beaucoup et qui sont vite critiqués.
Puis est-ce que ça t'a surpris de voir que parfois, en chambre, il y avait de l'animosité, puis après ça, quand tout le monde sortait de la chambre, il allait prendre une bière comme si de rien n'était. Puis j'osais avec un policier plus au municipal, là, ça date peut-être de quelques mois, cette discussion-là. Ça avait brassé beaucoup au conseil de ville de la Ville de Québec. Et puis là, il y en avait un qui s'était levé comme s'il voulait s'en prendre un autre. Puis ce que le conseiller municipal m'avait dit, c'est que Yann, c'est tout le temps de même. Là. C'est comme si c'était une game de hockey, puis l'autre équipe, l'autre bord, fallait gagner sur cette autre équipe-là. Mais une fois que la séance est terminée, ben on peut aller prendre une bière ensemble, manger au restaurant, puis rire de ce qui s'était passé pendant les dernières heures.
Je pense que c'est vrai plus au Québec.
Ah oui,
moi, j'ai fait beaucoup de politique à Ottawa. Et il n'y a pas beaucoup de libéraux qui vont prendre des bières avec les conservateurs. Il y a des gens qui finissent par développer des affinités. Puis, par exemple, tu as des Gérard Deltel qui sont très appréciés, peu importe le parti. Mais en ce moment, à Ottawa, il y a beaucoup de partisanerie. Il y a un ton qui est très acrimonieux. Donc, quand ça tombe dans le personnel, c'est toujours plus difficile. Au Québec, c'est rare qu'on va voir ces attaques personnelles-là. Le monde n'aime pas ça. Fait qu'on voit un peu moins d'attaques personnelles, ça laisse place à un peu plus de respect mutuel et cette proximité-là qu'on parlait. Le premier qui me vient en tête, c'est Pascal Bérubé. Pascal Bérubé est le premier à être ami avec tous les parlementaires, à lever la main, il est bon pour... Tu sais quoi? Puis les gens qui en bénéficient à la fin de la journée, c'est les gens de sa circonscription parce qu'il est capable d'amener un ministre dans sa circonscription pour régler un problème. Fait que c'est vrai qu'il y a un aspect de show puis que le monde font une espèce de théâtre un peu avec le spectacle en chambre. Mais quand vient le temps de régler des problèmes, c'est important d'avoir des bonnes relations avec les gens. Moi, je travaille dans le milieu, j'enseigne les relations publiques, les relations médias à l'Université du Québec en Outaouais. Puis je dis souvent à mes étudiants, les relations médias, les relations publiques, c'est des relations interpersonnelles à la fin de la journée. Et c'est la même chose en politique. La politique, c'est aussi des relations avec des gens, avec les politiciens de l'autre côté, avec les staffers de l'autre côté. Donc, plus tu as des bonnes relations, plus ça va être payant pour les gens qui t'ont élu.
Jacques Gourde doit être aussi apprécié au fédéral. C'est
surtout d'Infoman. On va s'ennuyer de Jacques Gourde.
Oui, on va s'ennuyer. Là, il a parti sa carte virtuelle. Il a mis ça sur les réseaux sociaux dans les dernières heures. Là, comme Post Canada est en grève, il veut faire une carte de Noël virtuelle. C'est tout un personnage.
Ah, attendez pas votre carte de Post Canada. D'ailleurs, un autre qui est un peu peiné que Post Canada est en grève en ce moment, ça doit être M. Legault qui attend encore sa boussole parce que oh, là, hein, au Québec non plus, ça ne vole pas.
Ouais. Donc, on dresse le bilan politique avec toi, Jérémy. Parlons des trois étoiles de l'année. Okay? Si tu avais à nous mettre trois étoiles en politique cette année, tu nous aurais mis qui? Commence par la troisième position.
On dirait qu'on est dans un match canadien, puis là, j'entends juste ça. And the third star, la troisième étoile.
On est dedans.
Ben, aujourd'hui, pour moi, ma troisième étoile, c'est nul autre que Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon a terminé l'année un petit peu moins fort qu'il l'a commencé.
Ouais.
Mais malgré tout, il a été capable de maintenir la cadence. Quelque chose que j'analysais en début d'année, c'est de dire c'est bien beau de voir Paul Saint-Pierre Plamondon dans cette position de tête-là en ce moment, en haut des sondages. Il trônait au début de l'année dans les sondages. Il a été capable de maintenir la cadence sans mettre de l'eau dans son vin. Et ça, c'est impressionnant pour un chef de parti parce qu'il aurait pu dire « Je suis en position d'aller chercher un peu, je suis en position d'aller chercher le gouvernement, je me retrouve à la porte du pouvoir et je vais faire comme tous les autres chefs du Parti québécois ont fait dans les dernières années, arrêter de parler de souveraineté. » Il ne l'a pas fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je viens de la famille libérale, donc c'est pas moi qui... J'essaie pas de faire la promotion de la souveraineté ou de la promotion du Parti québécois avec cette troisième étoile, mais ce que je dis, c'est que monsieur Saint-Pierre Plamondon a performé à l'Assemblée nationale. Ils ont une équipe de 4 députés. Ils ont pris la place. Ils n'ont pas été à la remorque de la parade. Ils ont souvent mené le bal dans plusieurs dossiers. Donc, c'est pour ça que je donne ma troisième étoile.
Ouais, je suis d'accord.
La deuxième étoile.
Je suis d'accord pour ce qui est Paul Saint-Pierre Plamondon. Je trouve ça intéressant que tu nous l'amènes en troisième étoile. Bon, il va devoir travailler sur la réception des questions de ces journalistes qui ne lui plaisent pas. À un moment donné, c'est des
il va devoir se débarrasser de la perception de soupe au lait, cette caricature.
c'est des journalistes, là, c'est pas des ennemis publics numéro un. Là, donc, il va devoir faire attention à ça. Mais ce que j'aime de lui, même si je voterai jamais pour Paul Saint-Pierre Plamondon, probablement, ce que j'aime de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il ne semble pas mentir concernant la souveraineté. Il n'est pas gêné d'en parler. Il sait qu'il mène dans les sondages, puis il sait qu'il y a une partie de la population qui vont peut-être décrocher quand il va parler de souveraineté, mais il le fait pareil. La franchise de Paul Saint-Pierre Plamondon, je l'aime beaucoup, Jérémy. Et ça, effectivement, il mérite une étoile.
Tu sais ce qui a retenu mon attention dans les derniers mois, c'était la MasterCAQ. Cette initiative du Parti québécois qui a fait en sorte qu'ils ont chiffré les erreurs de la CAQ dans les derniers mois et là où ils auraient économisé en tant que gouvernement. J'ai trouvé ça quand même génial. Ils ont sorti là, la carte de crédit caquiste pour chiffrer des dépenses qu'ils ont qualifiées de frivoles. 1,7 milliard par année pour financer les baisses d'impôts, 710 millions pour des entreprises, 300 millions pour les cours en construction pour 75 % des étudiants qui font autre chose en même temps. Ils ont bien performé, ils ont été capables d'imager leurs propos, ils ont été capables de rester authentiques. Fait que c'est pour ça que je trouve que cette nomination-là, je donne cette étoile-là à M. Saint-Pierre Plamondon.
Dans nos trois étoiles, on est maintenant rendu en position numéro 2.
La position numéro 2, Christine Fréchette,
oh,
ministre étoile montante du gouvernement. Elle a de gros souliers. Et là, dans un bilan comme ça, ce qui est important, c'est de retourner jusqu'en janvier 2024. Hein? Fait que Mme Fréchette a commencé l'année en tant que ministre de l'Immigration. Elle a tenu tête au gouvernement fédéral qui a fini pendant l'année à revoir ses cibles d'immigration à la baisse, qui a accordé au gouvernement du Québec les sommes que le gouvernement du Québec lui demandait et finalement qui a pris la place de M. Fitzgibbon, quand M. Fitzgibbon a démissionné. Je ne dis pas que c'est parfait jusqu'à présent, mais elle a pris du galon dans la dernière année. Elle est efficace dans ses sorties en communication. Elle ne fait pas dans l'éclat. Elle ne fait pas nécessaire. Elle n'essaie pas d'en faire trop. Elle reste sobre. Elle n'attire pas l'attention pour rien. Elle ne cherche pas l'attention, mais quand elle prend la parole, elle le fait de la bonne façon. Et donc, je lui donne ma deuxième étoile pour cette année, autant pour sa performance en tant que ministre de l'Immigration qu'en tant que ministre qui a l'héritage de Pierre Fitzgibbon, qui a aussi toute la réforme de l'énergie à mettre de l'avant dans les prochains mois. Donc, à voir si elle va continuer de la même façon que Pierre Fitzgibbon l'a fait ou si elle va apporter quelques changements. Et si j'avais à parier un 2$, ben je dirais qu'elle va apporter quelques changements dans l'approche.
Oui, parce que quand elle a été nommée là, bien honnêtement, moi, je connaissais Christine Fréchette parce que j'essaie d'en lire un peu plus sur la politique à chaque jour. Mais la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de Christine Fréchette. Donc, de remplacer un super ministre, c'était quelque chose. Puis qu'on se dise, oh, OK, c'est elle qu'on prend. Puis de voir à quel point elle a fait preuve preuve de sang-froid lors des premières conférences de presse où elle répondait comme toute personne doit répondre. J'ai trouvé ça formidable. Puis le stress n'a pas semblé paraître dans son visage, du moins. Puis elle a un excellent CV, là. Je veux dire, elle a une maîtrise en relations internationales. C'est une femme exceptionnelle qui gagne à être connue.
Bien, je peux me tromper, mais je pense que son année 2025 va être tout aussi performante que l'année 2024. Donc, c'est une ministre qui va prendre du galon dans les prochains mois et qui sera certainement à surveiller.
Position numéro 1. Bon Dieu, que c'est excitant. Tu vas nous mettre qui en numéro 1, là?
Et c'est pas quelqu'un, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, on se serait attendu à ce qu'il se retrouve là. On l'a déjà qualifié de robotique. On a dit par moments qu'il manquait d'empathie. Mais c'est Simon Jolin-Barrette.
Ah oui? OK.
Simon Jolin-Barrette, il y a 6 ans, c'est pas le même ministre que Simon Jolin-Barrette aujourd'hui. On le sentait au début du mandat de la Coalition Avenir Québec, un peu trop d'énergie, qui essaye de tirer partout. On le voyait s'éparpiller. Cette année, je l'ai trouvé responsable, je l'ai trouvé efficace. C'est toujours le même ministre qui attaque tous les dossiers qu'il a sur son dossier, mais il l'a très bien fait cette année. Il n'est pas allé chercher l'attention pour rien, il a livré. Il a livré la réforme du droit familial, notamment dans les questions des droits pour les conjoints de fait. Il a livré la loi dans le cadre du partage des images intimes sans consentement pour venir sévir sur ce phénomène-là. Il est allé protéger les consommateurs avec les pourboires excessifs ou avec l'affichage à l'épicerie. Donc, ce n'est pas un ministre qui a attiré l'attention, mais quand il attirait les feux des projecteurs, il le faisait pour les bonnes raisons, que ce soit pour les violences sexuelles, que ce soit pour le droit familial. Donc, il a été efficace, il a livré ce qu'il avait à livrer. Il n'attend pas, lui, que ce soit dans le journal avant de réagir puis de livrer un projet de loi. Il le fait avant que ça se retrouve dans les médias. Et ça, ben, c'est tout à son honneur. C'est ce qui lui vaut ma première étoile cette année.
Il est encore très jeune. Moi, j'aime beaucoup la jeunesse en politique. Est-ce qu'il pourrait être un aspirant? Dans le cas où François Legault décide de partir, est-ce qu'il pourrait être un aspirant pertinent? Pour ce qui est du fameux charisme, il faudrait peut-être qu'il travaille un peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'au début, il sonnait robotique. À toutes les infomanes de fin d'année, Simon Jolin-Barrette avait des lasers dans les yeux.
oui, c'est ça, est-ce exact. Pourrait être un bon... François Legault, il a déjà souhaité une pièce de robot. Fait que, en tout cas...
Est-ce qu'il pourrait être un bon prétendant?
Est-ce qu'il va réfléchir? Je pense qu'il va réfléchir à la possibilité de se lancer. Est-ce qu'il serait un bon chef? J'en doute, notamment à cause de la question de charisme. Pour moi, ce n'est pas parce que tu es un bon ministre que tu es nécessairement une bonne option pour remplacer ton chef. Être chef, c'est un travail qui est tout à fait différent. On n'est pas dans la livraison de dossiers spécifiques ou de projets de loi dans lesquels on peut se permettre d'être chirurgical, dans lesquels on peut aussi se permettre de s'effacer de l'actualité pour éviter... À mettre les pieds dans nos points faibles, etc. Là, quand on est chef, on fait face au feu des projecteurs à tous les jours. On doit gérer tous les dossiers, les égos. Fait que c'est un travail qui est très interpersonnel. Et je pense que on le dit, le charisme, M. Jolin-Barrette, même si c'est un ministre qui est hautement efficace, c'est peut-être pas sa plus grande force. Donc, je pense qu'il va réfléchir à la possibilité de se lancer dans une course à la chefferie. Je ne tomberai pas non plus de ma chaise qu'il le fasse, mais je ne suis pas certain que ce serait la meilleure option pour la Coalition Avenir Québec. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans une course éventuelle à la chefferie pour la Coalition Avenir Québec, il va falloir quelqu'un qui est capable d'avoir un ascendant sur les ministres et les gens qui viennent du côté fédéraliste et du côté souverainiste. Il va avoir ce clash-là. M. Legault a été capable d'unir ces deux mouvements-là ensemble. La prochaine personne va devoir avoir ce même ascendant-là et je ne suis pas certain que Simon Jolin-Barrette serait cette personne.
Puis est-ce que François Legault aurait avantage à vouloir se représenter pour un prochain mandat? Ça n'a pas été un beau mandat, celui-ci. Là. Bon, il reste encore quelques mois, là. Ouais. Mais n'en demeure pas moins qu'on regarde les sondages puis les gens, le message ne semble plus passer quand le premier ministre s'adresse à la nation, là.
Il reste encore plus que quelques mois. Hein. Il reste 2 ans encore de M. Legault. Je lui souhaite que la situation se retourne. Mais non, il n'aurait pas avantage à se représenter. Je pense qu'il pourrait s'inspirer de Valérie Plante qui a décidé de ne pas se représenter aux prochaines élections, ce qui fait qu'on parle positivement d'elle pour la dernière année de son mandat. Elle donne le temps à son parti de se prendre en main et d'élire le prochain chef, donc de surfer sur un certain momentum. 2024, c'est aussi l'année où Joe Biden a finalement réalisé que 82 ans, c'était l'âge de la retraite. Bon, M. Legault n'est pas rendu à 82 ans, mais il a fait son temps en politique, je pense, et je pense que ce serait sage si jamais, à la fin de son mandat, il nous annonçait qu'il ne se représente pas. Il ne peut pas le dire maintenant, par exemple, parce que quand un chef dit « je ne serai pas là à la prochaine élection » puis qu'il reste encore 2 ans, et ça va commencer à grenouiller dès maintenant. Et là, ben là, ça va être le festival de la diversion et des attaques entre collègues. Et là, ça va commencer à se piétiner. Donc, un chef, peu importe qu'il s'en aille ou pas à la fin de son mandat, est dans l'obligation de dire qu'il va se représenter et de le dire fermement. Parce que la seconde où on voit et on sent une petite brèche dans ce discours-là, je peux te garantir que tout le monde, nous deux, les premiers, vont se garrocher sur cette déclaration pour analyser tout le monde. Et là, ben, tout le monde va être un candidat potentiel. Puis là, les 2 dernières années du mandat de la coalition Avenir Québec vont n'être que destinées à parler de qui sera le prochain chef plutôt que des initiatives. Ouais. Donc, M. Legault fait la bonne chose de ne pas le dire maintenant, mais je pense que ce serait sage pour lui de ne pas solliciter un troisième mandat.
OK, mais advenant le cas, je t'en ai, hein, mais advenant le cas où il avait l'intention de quitter, il quitterait dans sa 3e année de mandat, le temps de faire une élection pour ce qui est du prochain chef, puis d'établir un nouveau programme, du moins.
Je pense que quand tu le fais, et c'est pour ça que je donnais l'exemple de Valérie Plante, parce qu'elle l'a très bien fait. Elle est dans sa 4e année, donc il reste un peu moins d'un an avant les prochaines élections. Elle a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Et là, ben, ça donne environ un cinq mois pour déterminer qui sera le prochain chef. Ça donne un 2-3 mois à ce chef-là pour faire une période de transition et entrer dans les élections. C'est un très bon timing. Chacun son approche aussi. Tu sais, ça peut être ça prend assez de temps pour organiser une course à la chefferie et donner la possibilité au nouveau chef de se faire connaître un peu du public. Parce que ça aussi, c'est un élément qui doit être pris en considération. Si les Québécois ne te connaissent pas, ils ne voteront pas pour toi. Puis encore, peu importe ce qu'on veut dire, ce n'est pas les députés qui font en sorte qu'un gouvernement est élu, ça reste le chef
mais
à
ça,
la fin de la journée.
Mais ça, est-ce que les membres sont conscients de ça? Parce que c'est les membres qui mettent le chef en place. Est-ce qu'ils sont conscients de ça, que le chef qu'on veut mettre en place ou la chef qu'on veut mettre en place, ça devrait d'être hyper populaire auprès des Québécois? Est-ce que la popularité
toujours
passe avant la pertinence, mettons?
La popularité et la pertinence doivent cohabiter. Mais la popularité, je vais te dire la notoriété plus que la popularité. La notoriété est importante. Mettons qu'on fait un parallèle avec la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Oui.
Denis Coderre a une très grande notoriété. Ça ne veut pas dire que c'est le choix le plus pertinent. Hein. Le recyclage, c'est bon pour sauver la planète, mais de recycler des politiciens vintage, ce n'est pas toujours la solution pour sauver un parti politique qui a besoin de faire peau neuve. Fait que, tu sais, il faut faire l'équilibre entre notoriété puis pertinence. Et là, mais à partir de ce moment-là, tu te dis, ben, c'est qui la meilleure personne? Il y a des surprises qui peuvent subvenir, qui vont nous surprendre agréablement. Mais quand on a une fenêtre d'opportunité qui est un peu plus courte, la notoriété doit prendre un peu plus de place à certains moments parce que les gens vont devoir passer d'un François Legault que presque tout le monde connaît au Québec à quelqu'un d'autre. Et là, ben, tu dois avoir quelqu'un que les gens sont capables de s'identifier, sinon ça risque de pas très bien aller aux prochaines élections.
Parfait. Jérémy Guillot, on fait le bilan politique avec toi. Tu es analyste politique, tu es directeur chez TACT. Maintenant, on y va avec les prix citron, les 3 citrons de l'année.
Hey, ça a été difficile à faire, hein, parce qu'il y en a eu des bourdes cette année. Donc, tenez-moi pas responsable de tout. J'ai 3 citrons, puis un presque citron, mais qui s'est sauvé à la dernière minute. Donc, j'y vais avec le presque citron avant de rentrer dans la vraie catégorie. J'avais Éric Girard dans ma liste, mais je l'ai enlevé après la présentation de son bilan économique là, d'automne qu'il a fait, parce que M. Girard n'a pas succombé à la pression politique et partisane d'injecter de l'argent dans l'économie parce que ça ne va pas bien. On l'a vu à Ottawa, eux, de leur côté, ont décidé de mettre 1,6 milliard dans des congés de TPS sur la barbe à papa, les Nintendo, les Canada Goose pour enfants à 995 $. M. Girard nous l'a dit, on nous a dit les vraies affaires, il nous a dit que ça allait être, on devait faire attention, on devait gérer le budget avec rigueur. Ça ne l'a pas empêché d'investir des enveloppes importantes dans le transport en commun, dans l'adaptabilité au changement climatique. Ouais. Donc, ça lui a sauvé des prix citron parce que à la base, je voulais le mettre dans cette catégorie-là pour la bourde qu'a été les Kings de donner 5 à 7 millions de dollars pour des millionnaires, des joueurs de hockey qui viennent jouer ici alors qu'on aurait probablement été capable d'avoir une équipe de hockey faire le même exercice au centre Vidéotron, mais pour aucune forme d'investissement public. Là, tout le monde a bénéficié, c'était plein à craquer. On le sait, on l'a vu, il y a des gens qui nous écoutent qui ont été. Je ne dis pas que l'initiative n'était pas bonne, je dis juste qu'on n'aurait pas dû investir ces sommes d'argent-là pendant que le monde en arrache de l'argent public dans une pratique littéralement des Kings de Los Angeles.
Moi, je vais t'avouer que j'ai mal compris le message lorsqu'il y a eu la conférence de presse parce que dans ma tête, bon, il y a bien des affaires qui se passent dans ma tête, là, mais dans ma tête, j'étais persuadé que s'il y avait un déficit à avoir, c'était le gouvernement du Québec qui allait casquer le déficit. Mais là, de ce qu'on comprend, c'est pas du tout ça. Là. Il y a eu presque 40 000 personnes qui se sont présentées au Centre Vidéotron pour les matchs des Kings. Les concessions ont marché comme pas possible. On a vendu de la marchandise de la Ligue nationale de hockey. Les restaurants ont bien fonctionné. La vente de boissons a bien fonctionné. Puis la boîte était pleine les deux jours. Je me dis, mais où est-ce qu'on a perdu de l'argent? Pourquoi on doit donner encore plus d'argent, un 5,6 millions? Ça n'a pas été expliqué, mais on nous a dit que ça a été vérifié en faisant des audits, là, mais je me demande, tu sais, c'est quoi le pourcentage de profit qui s'est pris du côté de Jestev? J'ai rien contre les gens de Jestev, c'est des hommes d'affaires. Jestev, ça appartient à Vidéotron, mais j'avais mal compris. J'étais persuadé que c'était pour casquer s'il y avait un déficit, puis là, visiblement, c'est pour faire partie peut-être du profit, là, le 5,6 millions. Parce qu'autrement, on peut pas espérer un retour des Nordiques à Québec. Parce que si le fait que pendant deux soirs, ce soit plein, que la bière se vende, que les restaurants soient pleins, que la merch se vende, puis que ça, c'est pas rentable, puis il faut en plus casquer 5,6 millions, les Nordiques reviendront jamais. Là. Jamais.
Ben puis notre argent devrait-tu servir à ça?
Non.
Parce que de l'autre côté, on a, puis là, ça, c'est ma troisième position dans les prix citron, France-Hélène Duranceau, qui nous disait que 900 000 $ la porte pour des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, c'était trop cher. Fait que là, t'es comme, d'un côté, t'as des initiatives pour aider des femmes qui sont victimes de violences conjugales ou pour créer des habitations, des logements à loyer modique qui sont trop chers. Puis de l'autre côté, on a l'argent pour investir 5 millions dans des pratiques qui font en sorte que, bon, tant mieux, les Kings sont venus, etc., le monde a fait de l'argent avec ça. Mais tu sais, c'est-tu vraiment la bonne utilisation de nos taxes puis de l'argent public? Bon, permets-moi d'en douter fortement, mais bon, bref, M. Girard s'est bien repris. Il a, avec le budget qu'il a livré et sa mise à jour budgétaire en automne, donc ça l'a sorti de la catégorie des prix citron. Mais comme je te disais, la personne qui s'est hissée au-dessus de lui, c'est France-Hélène Duranceau qui nous a habitués à des sorties sans trop d'empathie et de compassion au fil de l'année. On l'a vu, que ce soit les logements abordables, que ce soit les maisons pour femmes victimes de violences conjugales, ça n'a pas été la ministre la plus appréciable de ce gouvernement-là dans la dernière année.
Est-ce que ça a dérangé tant que ça? Parce que, bon, elle donnait son opinion concernant les chambres qui étaient à 900 000 $. Puis on lui avait reproché aussi d'arriver avec des sacoches qui valent des milliers de dollars, des souliers qui valent des milliers de dollars. Est-ce que ça lui a nuit, ça, cette façon d'agir, puis peut-être sa façon de se vêtir? Puis, tu sais, loin de moi l'idée de dire aux hommes et aux femmes comment s'habiller en politique, mais n'en demeure pas moins que là, si tu t'en vas dans une conférence où tu dois faire une annonce de logements sociaux, puis t'as 100 000 piastres de linge sur le dos, ça fait un peu manque de jugement, là.
Ben c'est sûr. Mais tu sais, je suis prêt quand même à parier que les sauts de M. Fitzgibbon coûtaient plus cher que les souliers de Mme Duranceau. Mais le problème de Mme Duranceau, c'était comme si on sentait qu'on avait besoin, tu sais, d'y injecter une dose d'empathie et de compassion artificielle au cours de l'année à chaque fois qu'elle sortait. Tu sais, à un moment donné, quand on l'a, quand on l'a critiqué sur sa gestion, puis le fait qu'il était là avec des souliers à 1 200 $, moi, je ne vais jamais critiquer le monde parce qu'il porte du linge, etc. Mais tu sais, quand tu dis en conférence de presse, je me fous pas du monde, ben, c'est parce que tu as perdu à quelque part ta campagne de communication, puis tu vas être prise avec ça. Fait qu'à chaque fois que Mme Duranceau sortait, c'était toujours une bourde, puis une bourde, puis une bourde. Et donc, c'est pour ça que je donne un prix citron, parce qu'elle n'a pas aidé son gouvernement cette année. Elle n'a pas aidé le gouvernement à se saisir d'un enjeu comme la crise de l'habitation, la crise du logement, alors que le gouvernement aurait pu, s'il avait eu une meilleure ministre ou une meilleure ministre dans ce dossier-là, peut-être perdre un peu moins de plumes dans les sondages pour montrer, ou du moins, juste avoir l'air un peu moins déconnecté. C'est un mandat qui est très terrain. Puis là, on a l'impression qu'il n'y a pas de ministre qui est en place pour le gérer. Dans un éventuel remaniement, je ne serais pas surpris de voir Mme Duranceau perdre toute forme de responsabilité.
Oh! Position numéro 2 maintenant.
La position numéro 2, je la donne à François Legault. François Legault, parce que ça a été une de ses pires années depuis qu'il est premier ministre du Québec. Il a eu de la misère à trouver le juste équilibre à chaque fois quand il sortait dans ses annonces, que ce soit tout récemment avec le ton qu'il a emprunté quand il réfléchit tout haut. C'était bon pendant la pandémie parce que ça faisait un peu père de famille rassurant, mais là, ça passe un peu moins bien. Quand il réfléchit avec les journalistes sur peut-être qu'on devrait interdire les gens de prier en public, puis qu'il oublie que le pape est venu sur les plaines avec des centaines de personnes qui priaient à l'extérieur.
C'est son choix de mots. Hein. Tu sais, son choix de mots, Jérémy. Là, toi, tu es analyste politique. Là, j'imagine que tu sais, quand il a utilisé le mot de déportation, là, je disais, tabouère, OK, t'es peu.
Toute l'année, il a fait des choses comme ça. Tu sais, c'est... Et puis, je peux comprendre qu'il essaie, il veut être authentique, puis on demande à nos politiciens d'être authentiques. Puis là, finalement, quand ils sont trop authentiques, on leur tire une pierre pour leur dire qu'ils choisissent pas les bons mots. Mais François Legault, toute l'année, il a été comme ça. Il a même été obligé... C'est pas pour rien qu'on disait à un moment donné, bon, François Legault, il est un peu moins visible, ça fait du bien à la CAQ. À un moment donné, quand tu es obligé de cacher ton chef pour bien performer, c'est parce que ton chef te tire vers le bas. Et là, cette année, ben, M. Legault avait souhaité d'avoir une boussole l'année prochaine pour se retrouver. Je vais lui offrir un gouvernail parce que la boussole, elle s'est perdue dans la grève des postiers de Poste Canada, je pense. Il ne l'a jamais reçue. Donc, on va lui souhaiter qu'il se remette sur le bon chemin pour les deux dernières années de son mandat. Mais là, cette année, il a eu de la misère à trouver les bons mots, à trouver un juste équilibre entre être trop partisan des fois par moment, puis ça se sent, ça, les auditeurs, là, les auditrices qui nous écoutent en ce moment, là, la chose qu'on haït le plus, c'est de se faire prendre pour des valises, puis quand la partisanerie transpire des propos des politiciens, bien ça, on a un peu l'impression que François Legault a fait ça dans les derniers mois, dans la dernière année. L'école Bedford n'a rien à voir avec le monde qui prie dans la rue, tu sais, c'est... À un moment donné, il ne faut pas exagérer non plus en politique. Puis là, ben, c'est ce que François Legault a fait dans la dernière année.
Bon, donc, c'est la position numéro 2 des prix Citron. La position numéro 1 maintenant.
Ah, ben, je pense que tu vas être d'accord avec moi sur celle-là parce que je pense que tout le monde lui donnerait la position numéro 1. Arun Boisy, on ne peut pas passer à côté de ce qu'il a fait. Il a complètement éclipsé la nomination de Rouba Gazal qui est le congrès de Québec solidaire pendant cette fin de semaine-là. Il a fait honte à l'Assemblée nationale avec les propos qu'il a tenus. Et là, il a refusé de s'excuser. Bon, il dit qu'il s'est excusé. Moi, je n'ai pas vu ça comme des excuses très sincères sur Twitter. Là. Franchement, il a fait très mal à Québec solidaire. Il a fait mal paraître Gabriel Nadeau-Dubois, qui semblait comme un co-porte-parole qui n'avait pas d'emprise sur son caucus, qui n'était pas capable de contrôler son équipe. Moi, je lui donne le citron de l'année. Arun Boisy, il a fait honte à l'Assemblée nationale, il a mis son parti dans le trouble et il a éclipsé Rouba Gazal.
Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va devoir démissionner au mois de janvier lors de son retour ou peut-être début février?
Alors, tout ça va dépendre de M. Boisy parce que les co-porte-parole à Québec solidaire n'ont pas la capacité et les pouvoirs, la latitude nécessaire d'expulser un membre du caucus. C'est les membres de Québec solidaire qui doivent approuver une expulsion d'un membre de caucus. Et ça, pour moi, c'est une épine dans le pied de Québec solidaire. Parce que n'importe quel chef qui a pleinement le contrôle de son caucus aurait probablement expulsé Haroun Boisy. Tu ne veux pas garder quelqu'un comme ça que presque l'ensemble du Québec condamne pour les propos qu'il a tenus et que les excuses qu'il nous fournit, c'est de dire « bon, j'ai jamais voulu blesser personne, puis si quelqu'un s'est senti visé, j'ai jamais voulu dire que mes collègues étaient racistes ». À un moment donné, si tu n'es pas capable de t'excuser en plus pour ce que tu as dit et que tu ne comprends pas que ce que tu as fait, ce n'était pas correct, si tu devrais te faire expulser de ton caucus. Et là, ben, les co-porte-parole ont les mains liées. Ils doivent se contenter de ce type d'excuses et d'essayer de tourner la page, mais j'ai l'impression que ça va les suivre très longtemps.
OK. Écoute, je trouve ça très pertinent. Donc, Haroun Boisy, c'est la première position dans les prix Citron de Jérémy Guillot. Jérémy, j'ai le goût de te faire une prédiction. J'ai un peu de Jojo Medium en moi. Je pense qu'on partage
l'ADN. Tu l'as sorti ta boule de cristal.
tu parlais de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il est dans ses derniers mois chez Québec solidaire?
Ah ben, on va jouer à la game des prédictions. Moi, une de mes prédictions, c'est qu'il ne sera pas aux prochaines élections.
Exact.
T'es-tu à la même place que moi?
Oui, et dans quelques années, il sera où?
Ah, tu penses qu'il va s'en aller au Parti québécois?
c'est ce que je pense. J'en suis persuadé que c'est une stratégie. Gabriel Nadeau-Dubois a toujours rêvé de devenir premier ministre du Québec. Puis avec un parti comme Québec solidaire, qui est très conservateur là, dans ses idées, ne sera jamais capable d'être un parti généraliste là, comme le Parti libéral ou le Parti québécois ou la Coalition Avenir Québec. Là.
Ah, effectivement. Mais je ne vois pas, par contre, Gabriel Nadeau-Dubois transféré au Parti québécois. Là, je peux me tromper, mais il y a trop d'animosité entre les deux. Et je ne sais même pas si le Parti québécois accepterait que Gabriel Nadeau-Dubois se joigne à eux. Peut-être que lui pourrait essayer de le faire, mais moi, je pense qu'il se ferait dire non. Il y a trop... J'en reviens avec mes grands-parents. J'adore mes grands-parents, je les aime tout le temps. Ce qu'ils aiment encore moins que les libéraux, c'est les solidaires. Le Parti québécois ne sont pas capables de sentir Québec solidaire et je ne pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois serait accepté au sein de leur rang. Après ça, on peut se tromper, on peut voir toutes sortes de choses, mais...
Il pourrait pas aller se refaire une beauté avec les médias?
Oh ben peut-être. Peut-être qu'on va le voir comme analyste politique. Là. Ça, c'est certain. En plus, on le sait, il y a du bagou, c'est le roi de la clip. On va le voir certainement venir jaser avec nous peut-être pour faire le prochain bilan de l'année politique, mais je pense pas que le Parti québécois l'accueillerait à bras ouverts.
OK, donc ma prédiction Jojo Medium, c'est un peu la même que toi, mais à quelques exceptions. J'ai l'impression qu'il est dans ses derniers mois chez Québec solidaire, puis que dans quelques années, il se retrouvera pour le Parti québécois. Mais d'ici là, on aura le temps d'avoir des cheveux blancs. On s'en reparlera. OK, Jérémy, Guillaume, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Je rappelle aux auditeurs qu'on fait un bilan politique ce soir avec l'analyste politique Jérémy Guillaume. Il est aussi directeur chez TAC. On revient.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneras qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous avez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 44 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre la main dessus. Bon, mettons 2-3. Ça dépend de comment vous pitonnez.
Chez Lévis Mazda, on va se dire les vraies affaires, là. Il y a des méchants deals actuellement sur les Mazda CX-5 et sur les CX-50 2024. Financement à l'achat à partir de 1,5% sur 36 mois. Déjà proprio d'une Mazda? Profitez de notre rabais fidélité de 1,5% pour un financement à 0% sur 36 mois. En plus, on vous ajoute 500$ de rabais et vous commencez à payer dans 90 jours. Promo valide jusqu'au 31 décembre seulement. Lévis Mazda, juste des bonnes affaires.
Le complexe du Phoenix a tout prévu pour votre party du 31 décembre. Musique live festive de 19h à 3h à la boîte à chansons et 3 DJ dès 22h à la discothèque. De la bouffe et des bulles pour un party endiablé. Pour réserver, phoenixduparvis.com.
L'ACQ Québec remercie tous les acteurs de la construction pour leur engagement et leur souhaite de joyeuses fêtes. Ensemble, faisons de la nouvelle année une occasion en or pour réussir vos projets. L'ACQ Québec, le partenaire des travailleurs en construction. Visitez acq.org.
Visitez la nouvelle boutique cadeau et crèmerie Caramel FAA. Découvrez l'expérience d'emballage cadeau sur mesure, bâtie selon votre budget et vos produits coup de cœur. Pour votre famille, vos employés ou vos amis, partagez la valeur de l'amour. Offrez Caramel FAA. Caramel FAA à Saint-Émile.
Expo Cité remercie chaleureusement ses partenaires, ses organisateurs, ses fournisseurs et ses visiteurs pour leur fidélité et pour cette belle année qui tire à sa fin. La présence de chacun d'entre vous transforme chaque événement en petits et grands moments. De la part d'Expo Cité, joyeuses fêtes à tous!
Le calendrier de l'Avent Place de la Cité du 9 au 22 décembre. L'offre du jour, un petit café gratuit dès 13h en mentionnant l'heure est au team chez Tim Hortons. Rendez-vous sur placedelacité.com pour participer et courir la chance de gagner la surprise du jour. Aventure Portneuf vous offre les meilleurs motoneiges et VTT Polaris et Suzuki et le meilleur service de la région depuis 52 ans. Vous êtes mécanicien? Postulez au carrière.fm pour joindre l'équipe. Salaire allant jusqu'à 35 $ de l'heure selon l'expérience. AventurePortneuf.com.
Quand on a commencé en 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils sont pas encore parfaits, mais heureusement, pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a Desharnais. Et ça, c'est juste parfait. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Chez Attitude Hélicoptère, on vole toute l'année. Cet hiver, survolez les plus beaux décors enchanteurs et enneigés de la ville avec nous. Admirez le fleuve gelé, la terrasse Dufresne illuminée et les chutes Montmorency givrées. Vivez l'expérience ou offrez-la en cadeau. Visitez attitudehélicoptère.ca.
Découvrez l'école d'ébénisterie Artébois. Depuis 2006, nous transmettons notre savoir-faire en matière de travail du bois. L'école Artébois offre des cours d'introduction à l'ébénisterie et vous accompagne dans vos projets de fabrication de meubles. Que vous soyez débutant ou amateur, visitez artébois.com. Artébois, la passion du bois.
Est-ce que ça se commande un clavecin sur Uber Eats? Non, mais des craquelins, ça oui. On a la sorte que vous aimez, puis la livraison est à 0 $. Pas mal mieux que d'avoir quelqu'un qui aurait dû apprendre la guitare à la place. Uber Eats. On livre presque tout. Des conditions s'appliquent.
À la recherche d'idées cadeaux gourmandes de premier choix pour amis, professeurs, hôtesses, famille, les chocolats et pâtisseries de Eddie Laurent Chocolatier Belge seront épatés lors de vos réceptions des fêtes. Fabrication sur place, en atelier. Oui, ça sent vraiment bon. Boutique.eddielaurent.ca.
Ascenseur universel. Spécialiste dans l'installation d'ascenseurs, de monte-charge et de monte-matériaux sur mesure. Résidentiel ou commercial, s'élever sans effort n'aura jamais été aussi facile. Ascenseur universel remercie sa clientèle pour la confiance des 25 dernières années. Ascenseuruniversel.com.
Cédric et Philippe des Immeubles Urbains souhaitent de joyeuses fêtes à tous leurs locataires, clients, employés et partenaires. Vous avez un immeuble ou une maison à vendre? Immeubles Urbains pour une transaction clé en main. Construction-rénovation? Immeubles Urbains. Visitez Immeubles Urbains sur Facebook.
Amoureux de plein air et de bonne musique, dès le 20 décembre, découvre la Disco Glace, la toute nouvelle patinoire réfrigérée à l'Agora du Port de Québec. Sors tes patins et laisse-toi emporter par une ambiance féerique avec des rythmes entraînants. L'accès est gratuit à la Disco Glace.
Offrez le spa Infinima en cadeau à Noël. Offrez le forfait Infinima visage ou massage à 109 $ à l'achat d'une carte cadeau. Détails en ligne ou en succursale. Le spa Infinima, rendre le bien-être et la détente accessibles.
La grande famille des supermarchés Métro-Ferland tient à profiter de cette période de l'année pour dire merci à tous ses fidèles clients et employés. On vous souhaite un temps des fêtes rempli de fous rires, de belles tablées et de moments bien entourés. Joyeuses fêtes!
Tyzone lance son menu Trion. Pour 2 semaines uniquement, Tyzone t'offre un petit Tao à seulement 2 $ avec l'achat de n'importe quel trio. Un petit Tao à 2 $? Tyzone, bouffe taille avec du kick. Visite Tyzone.ca pour profiter des rabais.
Même si ça s'emballe pas super bien,
voyons,
et que c'est très difficile à placer sous le sapin, ça fait toujours plaisir d'offrir ou s'offrir une auto neuve de Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan. Prenez le nouveau Kicks, par exemple. Full techno, look du tonnerre, c'est le genre de cadeau qu'on savoure à chaque jour. À seulement 78 $ par semaine sur 39 mois pour un Kicks S2025, aucune raison de s'en passer. Détail pendant Braver l'hiver chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
BLVD.
Boulevard.
102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
On a le plaisir de ce soir d'être avec Jérémy Guillot pour faire un bilan politique. Jérémy est analyste politique et directeur chez TAC. Il nous restait à parler des travaux non complétés depuis quelques années du côté de la Coalition Avenir Québec. Nous autres à Québec, Jérémy, tu le sais, les gros dossiers, c'est le tramway et le troisième lien. Le troisième lien qui a été abandonné puis repris après une défaite électorale d'une façon assez particulière. Là. En quelques minutes, là, on a décidé de ramener le troisième lien. Puis on est encore là-dedans aujourd'hui à savoir si on va l'avoir ou si on ne l'aura pas. C'est fou à quel point ce type de projet-là traîne au Québec.
Ben là, c'est pas que le projet traîne, c'est que le mort, il y a quelqu'un qui nous prend pour des valises à quelque part, parce que on l'avait enterré, on l'a ressorti de terre, on l'a réenterré, puis là, la Coalition Avenir Québec, Père Jean Talon, et là, on le ressort de terre. C'est incroyable de voir les ministres faire des flip-flops. T'sais, Geneviève Guilbeault, quand elle a fait son annonce pour ramener ça, ça devait pas y tenter d'aller la faire.
Non,
Elle a pris le coup pour son équipe, mais ça y a sûrement pas tenté. Puis moi,
surtout que c'est elle qui venait de le tuer. Puis, tu sais, on parlait tantôt de François Legault, de son choix de mots. Je me souviens que quand il s'était prononcé suite à l'élection partielle dans Jean Talon, il avait dit une phrase complètement weird, là, c'est-à-dire « Ben, je pense que le message qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit écouter notre population. Hey, tu travailles pour nous autres, François. C'est pas le contraire. C'est toi
Et
qui travailles pour nous autres. »
Et après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a ajouté « Actuellement, les gens attendent à l'entrée des ponts. C'est sûrement pas très bon pour l'environnement. Hey, » J'ai vu plus constructif que ça comme premier ministre dans l'histoire du Québec. Je suis désolé, mais ça vole pas très haut dans ce qu'on a vu dans ce dossier-là. Ouais. Bref, là, on va peut-être avoir une troisième élection sur le troisième lien pour voir si peut-être un jour on va l'avoir. J'espère qu'il n'y a personne qui va tomber encore dans le panneau puis qui va voter parce qu'on se fait promettre un troisième lien à Québec. Là. Parce que la réalité, ben, je m'excuse à ceux qui veulent ce projet-là, la réalité, c'est que ça n'arrive probablement pas. Là. Au début, on avait un bitube à deux étages. Après ça, c'était un tube. Après ça, c'était un tube avec un tramway. Après ça, c'était là, c'est peut-être un tube avec un pont. Là, c'est peut-être un pont ou un tunnel. On ne sait plus où ça donne la tête. La première maquette qui nous avait sorti, la ville de Québec était à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dessine ça sur une napkin à quelque part puis qui dit « Ah, c'est ça le nouveau projet. » Tu sais, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a pas d'études. Puis là, ça traîne et ça traîne. Geneviève Guilbeault, qui n'a toujours pas de partenaire de construction, ça fait 6 ans que la CAQ est en place. C'était une de leurs promesses fortes. Et toujours aucun résultat. Écoute, Éric Kerr est encore là. Il me semble qu'il avait mis son siège en jeu à une certaine époque pour dire si ça se fait pas, je m'en vais.
Oui.
Ben, il serait temps qu'il prenne une page du cahier de jeu de Youri Chassin puis qu'il s'en a.
Puis on avait Bernard Drinville qui regardait au ciel en disant je m'excuse, j'ai menti à mes citoyens. Ça. C'était.
T'en as quelques-uns, si ça continue, si la tendance se maintient pendant les 2 prochaines années, t'en as quelques-uns qui vont justement se faire montrer la porte par les gens.
Donc, nous autres à Québec, on avait, c'est ça, le troisième lien qui est un des travaux qui reste à compléter. Un jour, peut-être, qui sait. Mais en santé, le chantier est énorme, Jérémy.
Le chantier est énorme. Et là, M. Dubé va avoir des obligations de résultats à un certain moment. Parce que Christian Dubé, qui est un ministre qui est fortement apprécié dans la population, on lui fait confiance. Il a toujours des très bonnes lignes de communication. Il nous sort des tableaux, il nous sort des projets de loi. Il a toujours l'impression d'être en action, M. Dubé. Mais la réalité, c'est que les choses ne s'améliorent pas. Je voyais ce matin dans le Journal de Québec, et encore une fois, 900 000 personnes qui attendent une consultation avec un spécialiste. De l'autre côté, M. Dubé nous dit « Ah, ben on va faire en sorte que les médecins aient l'obligation d'aller dans le système public. » Tout ça est très bien, mais on s'attend qu'à 0,03% des médecins, quand on fait des initiatives comme celle-là, entre toi et moi, Yannick, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on règle les gens qui attendent des médecins spécialistes.
Oui.
On ne va pas faire en sorte qu'on va avoir accès plus vite à des soins. On ne va pas faire en sorte que les Québécois, finalement, décident de revenir vers le public parce qu'on le sait, dans les dernières années, il y a plusieurs Québécois qui ont choisi de se tourner vers le privé ou encore il y a presque le dernier sondage léger sur la santé nous disait qu'il y a environ 43 % des Québécois dans la dernière année qui n'ont pas été se chercher des soins parce que c'est trop compliqué ou parce qu'ils n'en auront pas. Donc, il y a beaucoup de chantiers à faire en ce moment en santé et M. Dubé, un jour ou un autre, va devoir répondre avec des résultats parce que sinon, c'est pour lui que ça va finir par brasser aussi comme tous les autres ministres de la Santé. On a l'impression un peu que c'est un cimetière à ministres, le poste de santé, et que M. Dubé avait été exempté de ça. Mais là, l'année prochaine, il va devoir livrer des résultats. Il va devoir les livrer rapidement parce que les gens vont commencer à être impatients.
Mais il va peut-être nous faire un genre de Pierre Fitzgibbon, là, démissionner, puis après ça, on passe à d'autres choses. On met quelqu'un d'autre qu'on dit tout aussi compétent, puis la vie continue. Mais pour ce qui est de la santé, moi, il y a une citation dans l'article de presse qu'on a lu ce matin qui m'a grandement inquiété. Tu sais, en même temps, quand t'es pas malade, tu t'en rends pas compte que ça existe, ce genre d'histoire-là, mais tu l'as dit, c'est 900 000 personnes qui attendent pour voir un médecin spécialiste. Et il y en a un qui a dit, parmi ceux-ci, il y en a qui vont avoir développé des cancers et leur cancer va avoir progressé pendant qu'ils sont sur la liste d'attente. C'est une catastrophe, ça, Jérémy. Là. T'es malade, t'es obligé d'attendre, puis ton cancer progresse, puis tu rencontres pas ton médecin spécialiste alors que t'as payé des taxes et des impôts toute ta vie. 50% du budget du Québec s'en va directement à la santé, si c'est pas plus, et ça semble être pas suffisant. Va falloir qu'on travaille fort là-dessus pour les prochaines années parce que les baby-boomers sont pas encore tous passés. Là.
La COVID a le dos très large. Exact. Et c'est pour ça que je dis, ben, va falloir, à un moment donné, il y a des obligations de résultats sur le ministre de la Santé. J'espère qu'il ne nous fera pas un Pierre Fitzgibbon et s'en aller pendant l'exercice de son mandat pour un peu échapper à certaines critiques. Il a des bonnes intentions, M. Dubé, quand je te disais en début de rencontre aujourd'hui que 99 % des élus sont là pour les bonnes raisons. Je pense sincèrement que M. Dubé a le bien-être des Québécois à cœur. Des fois, il est peut-être un peu têtu dans son approche politique, peut-être un peu trop tourné au sondage. Un système de santé universel, ça ne va pas dire un système de santé qui est exempt de toute forme de privé. Si jamais tu te rends compte que tu vas perdre des infirmières en cours de route, par exemple en enlevant les agences de santé privées, ben, je ne pense pas qu'on a le luxe de perdre des infirmières ou de perdre des médecins. Je pense qu'il faut trouver la façon de travailler tout le monde ensemble. Je pense qu'il faut se poser la question, pourquoi on a des gens qui quittent le public vers le privé? Pourquoi il y a des médecins qui partent du public puis qui s'en vont travailler au privé? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on en est là? Et c'est pas vrai que les ententes collectives avec les différents syndicats vont tout régler. Parce que je pense qu'une partie du problème, c'est l'omniprésence syndicale dans le milieu de la santé. Et je veux pas partir en guerre avec les syndicats. Tout le monde doit mettre de l'eau dans leur vin. Les syndicats doivent faire preuve de plus de flexibilité et le ministre de la Santé va devoir se tourner en mode pragmatisme, peut-être abandonner certaines idées qu'il a eues dans les dernières années si jamais on doit régler des problèmes ou on veut rapatrier des gens. Il faut se faire avec l'idée. Il y a des gens qui vont vouloir travailler au public, il y a des gens qui vont vouloir travailler au privé. Comment on fait que tous ces gens-là se retrouvent dans une position qui peuvent contribuer à notre système de santé universel? Très important de ne pas dire universel égale libre de toute forme de privé. Des fois, il y a des façons de contribuer, puis on le voit, les Québécois sont de plus en plus à l'aise. Si l'État assume les frais de ça, on peut mettre les cliniques privées, on peut mettre les salles d'opération privées et le personnel du privé au service du public. Bien, on va juste mieux se porter.
Oui, puis on fait la guerre à Clic Santé. Maintenant, ils se sont aperçus qu'il y avait du privé qui était proposé. Clic Santé, ça vient du Saguenay. Pendant la pandémie, ça a grandement aidé parce qu'on réussissait à se trouver des rendez-vous avec Clic Santé. Le gouvernement qui subventionne Clic Santé. Mais là, on se rend compte qu'ils poussent un peu de privé. Ça les dérange. Donc, Christian Dubé dit 2025, on va avoir notre propre plateforme à nous. J'ai bien hâte de savoir travailler sur cette dite plateforme-là. On souhaite que ce ne soit pas Éric Kerr.
Sais-tu? Ouais, sinon, ça ne se verra pas. Mais tu sais, as-tu une autre priorité pour vrai? Parce que Clic Santé, ça fonctionne bien. Ça dirige les gens vers des endroits où ils ont accès à leurs soins santé. Peux-tu te dire, on va trouver une façon de faire en sorte qu'il y a plus de rendez-vous du public de disponibles qui fait en sorte que Clic Santé peut redistribuer plus de gens vers des endroits publics. T'sais, y a-t-il une façon de dire, ça c'est un outil qui fonctionne bien, c'est un outil qui nous a aidés pendant la pandémie. C'est comme si en ce moment en santé, M. Dubé veut tellement toujours être du bon bord de l'histoire pour plaire médiatiquement que des fois, ça se fait au détriment de certaines initiatives dans le réseau de la santé.
Jérémy, il nous reste à peu près 2 minutes. Je veux t'entendre sur les citations de l'année. Mettons que tu avais un top 5 à me faire des citations de l'année, là.
Je vais essayer. Moi, ma citation préférée de l'année, c'est quand Denis Coderre avait dit « J'ai vécu des crises, je connais la game » et que du même souffle avait dit qu'il voulait faire 125 soupers spaghettis à travers le Québec. J'ai trouvé ça, franchement, à l'image de M. Coderre. Il nous en a fait des vertes et des pommures. Il nous a parlé du Normandin dans son lancement de campagne à la chefferie au PLQ. Il nous a parlé du fait qu'il était un parachuté, mais qu'il voulait aller acheter une maison dans sa prochaine circonscription. Et, bref, M. Coderre est une machine à nous sortir des clips. Des fois, ce n'est pas toujours les meilleurs.
Oui, puis j'ai pas l'impression que sa campagne va être très, très longue. À un moment donné, il va falloir qu'il abandonne.
Dans la catégorie prédiction, je t'en fais une, il ne sera pas au fil d'arrivée à la fin de la chefferie du PLQ. Il y avait toujours... Geneviève Guilbeault, matière de troisième lien, on l'a dit tantôt, elle a dit un peu plus tôt quand elle a lancé le projet, on part à la recherche de notre partenaire, Madame Guilbeault. 6 ans plus tard, c'est qu'il est un peu tard pour commencer à chercher son partenaire si on était vraiment sérieux dans cette aventure-là. Et il y a François Legault, on l'a dit tantôt, là, mais actuellement, les gens attendent à l'entrée des ponts. C'est sûrement pas bon pour l'environnement. J'ai vu plus édifiant que ça en termes de premier ministre. Et là, ben, il y en a plein dans l'élection américaine. Il y en a plein par rapport à l'éclipse. On en a vu de toutes les couleurs cette année. Franchement, ça a été une année politique pleine de rebondissements qui vont probablement se poursuivre en 2025. Mais j'espère qu'on va avoir droit à plus de hauteur, à plus de sensibilité, puis à plus d'intelligence collective en politique, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on descend le niveau d'intelligence parce qu'on dit que ça passe mieux dans les médias. S'il y a une leçon, moi, que j'ai appris quand j'ai fait de la politique, c'est que les gens respectent l'intelligence et aiment se faire respecter aussi. C'est pas parce qu'on fait des médias, c'est pas parce qu'on fait des entrevues qu'on doit nécessairement évacuer tout ce qui est important dans un projet, qu'on doit évacuer les détails, on doit le faire simplement, on doit rendre nos propos compréhensibles, mais sans prendre le monde pour des valises.
Jérémy, ça a été un bel exercice avec toi pendant plus de 60 minutes. T'es franchement intéressant, puis merci beaucoup de venir nous jaser une fois de temps en temps. On dressait le bilan politique avec toi, puis visiblement, on a passé au travers de plein de choses, mais il y en aurait tellement à jaser. Mettons qu'on parlerait du 51e État là, des États-Unis, du nouveau gouverneur.
On peut faire une autre heure là-dessus.
Donald Trump est un bully, puis on va avoir 4 ans à voir ce type de citation là de la part de Donald Trump, donc on s'ennuiera pas, j'en suis persuadé. Ça a été un plaisir, Jérémy.
Salut, là.
Bye-bye. Jérémy Gio et Guillaume est analyste politique et directeur chez TACT. On faisait le bilan politique. Je souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de boulevard 102.1 et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec Audrey à partir de 10h. Bye-bye tout le monde.
Marceau, le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1. Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Linkin Park le 5 août prochain au Centre Bell. Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette. Un Jeep 4XE hybride contient toujours l'essence Jeep. Mais là, je veux dire essence comme dans âme. Hein? Il contient toujours l'ADN Jeep. Bon, c'est ça. Mais le modèle à essence aussi est électrisant. Mais là, je veux dire électrisant, mais comme dans vraiment le fun à conduire. Bref, venez donc les essayer, vous allez comprendre.
Pendant l'événement, le parfait cadeau des fêtes. Obtenez jusqu'à 8 800 $ en incitatif Toto sur les Jeep Wrangler 2024. Passez voir votre concessionnaire pour plus de détails ou visitez jeep.ca.
Papa, depuis 25 ans, la Sagamité, c'est bien plus qu'un resto.
Oui, ma fille, c'est un feu qui réchauffe, une culture qui rassemble et une table qui émerveille.
Avec Yatista, on se réunit autour du feu et au cœur de vos célébrations.
Restaurant Sagamité, 25 ans de saveur, de culture et de partage.
Pour bien boire et manger durant les fêtes, votre lieu de gourmandise, c'est l'épicerie fine Alicia Sanchez. Laissez-vous tenter par leur fromage fin, charcuterie artisanale, vin d'importation privée et
des boîtes thématiques pour gâter les épicuriens. AliciaSanchez.ca. Sur la rive sud, à 3 minutes des ponts.
Vous avez des préoccupations ou vous avez besoin d'aide pour faire face à des défis? Maryse Girard, travailleuse sociale, est là pour vous aider à retrouver l'équilibre. Rencontres flexibles de soirée de fin de semaine et reçues pour assurance. Contactez Maryse Girard au MaryseGirardTS@commercial.gmail.com.
Cet hiver, pas question d'avoir les pieds gelés. Découvrez les bottes saute-mouton fabriquées à Québec pour affronter le froid avec style. Belles, confortables et en cuir imperméable, choisissez parmi un vaste choix de modèles. Restez au chaud tout l'hiver. Visitez saute-mouton.com.
Attitude Hélicoptère offre des cours d'initiation au pilotage. Vous pourriez prendre les commandes d'un hélicoptère pendant 30 minutes ou plus. Woohoo! Plusieurs initiés témoignent du sentiment de liberté qu'ils ont vécu et certains y ont trouvé une réelle passion. Visitez attitudehélicoptère.ca.
Dexco tient à souhaiter de joyeuses fêtes à sa fidèle clientèle. Merci de nous accorder votre confiance. Santé et amour pour 2025. Confiez vos petits et grands travaux d'excavation à Dexco. Résidence